ce que la Cour vous donne raison quant à la conclusion D de votre, des conclusions de votre mémoire.
Oui, bien sûr, en fait, ça c'est un autre élément, mais ce que je vous disais, c'est que pour la question de l'argument que je faisais à l'effet qu'il n'y a pas de plage, mm-hmm. si votre conclusion est contraire à la...
Non, je sais, c'était conditionnel.
Évidemment, moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on précise ouais. dans le paragraphe 165 du jugement de première instance que le droit de plage ne peut être exercé que sur la plage.
Il me semble que...
Vous allez me dire, ça tombe
sur
ça.
Soit un droit de plage, s'implique que c'est la plage, et non pas le reste du lot. Il me semble que ça coule de source, et c'est un petit peu ça que j'ai déjà dicté. Est-ce que j'ai besoin de définir davantage ce qu'une plage, qu'est-ce qu'une plage?
Bien, ça coule de source, je vous dirais oui et non, parce que il est arrivé dans certains jugements que j'ai pas nécessairement remis dans mon cahier de source, mais que des terrains qui n'avaient pas nécessairement le qualificatif de plage au sens premier, se sont vus attribuer un droit de plage. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il serait, dans le cas de ce dossier précis-là, il serait utile que cette remarque soit faite, d'autant plus que dans les motifs du jugement, sauf erreur, au paragraphe 135, le juge vient indiquer que les intimés ne peuvent utiliser le lot que pour se rendre à la plage.
Alors, comme il le veut.
C'est ça. Alors, mais c'est dans ses motifs et non pas dans ses conclusions. Je pense que ça serait utile et ça éviterait probablement des difficultés ultérieures que ça soit précisé dans le cadre du jugement.
Mais les installations dont vous parlez
oui.
ne sont pas sur la plage.
Non, vous avez raison.
Alors, ce qu'il vous dit, là... Par exemple, c'est attendu qu'en principe, le tribunal n'a pas explicité ce qui appartient au sens commun, c'est que le droit de plage, c'est pas un droit de pouvoir utiliser les installations dans le parc qui est installé par votre client, comprenez-vous?
Oui, tout à fait, je comprends. Mais je comprends
parce
également.
Que c'est un petit peu contradictoire. Si c'est un droit de plage, pourquoi est-ce qu'on discute des installations qui, lorsqu'on on regarde vos photographies, n'ont rien à voir avec le bord du lac?
Bien, cette demande-là était faite au juge. Je comprends que pour vous, ça peut couler de source, et pour un juriste, ça peut couler de source. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un droit de plage? D'une part, c'est pas défini dans la loi. Ça n'a pas été clairement défini dans la jurisprudence. Alors, cette demande-là, elle était faite à ce moment-là pour ces raisons-là. Mais ce que je vous soumets...
Quelle était la position de votre confrère en première instance à ce sujet?
En fait, honnêtement, nous n'en avons pas vraiment traité. Je ne me souviens pas que mon confrère ait argumenté sur cet élément-là.
Parce que le juge indique que ça n'a jamais été en litige. Ils n'ont jamais demandé à pouvoir utiliser ce qu'ils ont fait une requête. Mais jamais il n'y a été question des installations, parce que ce qu'ils réclamaient, c'était accès au lac par la plage, pouvoir bénéficier de la plage. Puis d'un droit de plage, ça inclut pas... Puis il me semble que quand on regarde vos photographies, c'est...
Il n'y a rien là.
C'est une petite plage étroite. Mm-hmm.
Mais d'où mon...
Pas de passage à pied pour s'y rendre, par contre.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pas des installations. Puis d'ailleurs, on voit que c'est autre chose là, qui est derrière.
Mais je vous demande pas de... Dans mon argument subsidiaire, je demande pas à la Cour de venir reproduire les conclusions qu'on recherchait quant aux installations. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse préciser dans le cadre du jugement que le droit de plage s'exerce sur la plage. Je comprends que ça fait
mais
beaucoup
c'est
de sens.
Commun.
J'en conviens. Mais... Dans la vraie vie, ça va causer des difficultés. C'est tout ce que je veux éviter.
Mme Carabelle?
Oui.
Peut-être juste pour me préciser une chose. Lorsqu'on regarde les photos à la page 303 ou page 303 et 304 de votre mémoire,
évidence, là, il y a une plage.
Oui.
Ça, c'est bien le secteur qui est en litige.
Tout à fait.
Alors, c'est ce que vos clients, à un moment donné, ils ont mis de la sécurité et puis ils ont limité l'accès à cette plage-là. C'est ça que je comprends? C'est ce qui a été mis en place.
C'est-à-dire que j'ajouterais une petite précision, là, c'est-à-dire que ce que la plante a fait, c'est empêcher le séjour et l'utilisation de la portion, alors, pas celle qu'on voit ici, là, le reste du terrain. C'est ça la prétention.
Mais cette plage-là, est vous en train de nous dire là, que ça a toujours, vous avez toujours permis que les intimés puissent accéder à cette plage-là là, et puis y séjourner et puis l'utiliser?
Bien, en fait, je vous ramène au témoignage de M. Lamontagne à l'effet que, de façon générale, cette portion qu'on voit là, elle n'existe pas. Parce que l'eau est beaucoup plus haute que ce qu'on peut voir sur ces photos-là.
C'est un lac?
C'est un lac, oui.
Comment vous expliquez qu'on appelle ça la plage soutien?
Quand ce n'est pas une plage.
Pardon?
Quand ce n'est pas une plage.
Mais je vous dis pas qu'il n'y a jamais eu une portion. Ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est qu'elle est minime et qu'elle appartient, à mon avis, à l'État. Mais je comprends votre position. Je vais passer à un argument subséquent, si vous me permettez. Bon, sur la question de l'écrit nécessaire à constater l'existence de la servitude par destination du public. Évidemment, là, que l'on tienne compte des dispositions applicables au Code civil du Bas-Canada ou du Code civil du Québec, la règle n'a pas changé. Cette servitude-là doit être constatée, non pas créée, mais constatée par un écrit qui va permettre de déterminer quels sont les fonds dominants, quels sont les fonds servants, quelle est la disposition des lieux, quelle est la nature, l'étendue et la situation de la servitude. Maintenant, dans le jugement de première instance, on ne retrouve pas de référence précise où le juge identifie un document en particulier en disant il s'agit de l'écrit nécessaire. Sa conclusion est plutôt à l'effet, au paragraphe 131, que, à la suite de son analyse je reprends les termes qu'il utilise, là, d'innombrables documents, il lui semble qu'il fait face à cet écrit nécessaire à constater la servitude par destination. Maintenant, si on réfère justement aux documents qu'il a analysés, si je fais abstraction des contrats pour l'instant, que je regarde les autres documents, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le règlement R5 que vous retrouvez dans le volume 1 à la page 292, qui est un règlement de construction, qui est accessoire ou qui est joint à certains actes de vente du dossier. Principalement, ce que ce document-là prévoit et qui a une pertinence dans le cadre du dossier, c'est le fait que l'acheteur ne doit rien faire qui est susceptible de nuire à la plage publique. Maintenant, ce document-là ne permet pas de déterminer le fond dominant, ni par ailleurs le fond servant. Il n'offre aucune indication quant à la disposition des lieux. Et surtout, il ne définit pas la nature de la servitude, son assiette et sa situation. Alors, respectueusement, je pense qu'il n'y a rien dans ce document-là qui était susceptible de constater une servitude par destination du propriétaire. L'autre document, encore une fois, abstraction faite des contrats, ce sont les plans R4 qui avaient été également cotés, le R6B, qu'on retrouve aux pages 285 à 289 du volume 1. sont essentiellement des plans de subdivision cadastrale. En fait, c'est les plans qui amènent la subdivision du lot 7D original, incluant le lot 7D40 qui fait l'objet de l'étude. Alors, on pourra peut-être prétendre que dans ces plans-là, on peut déterminer la disposition des lieux et le fond servant, parce qu'effectivement, le lot 7D40 s'y retrouve. Maintenant, les fonds dominants seraient lesquels? Parce qu'il faut savoir que dans ces plans-là, les lots des intimés ne s'y retrouvent pas. Donc, les lots dont ils sont propriétaires ne se retrouvent pas dans ces plans-là. Donc, on ne peut pas, avec ce plan-là, déterminer des fonds servants et un fonds dominant. Mais surtout, puis c'est ce qui m'apparaît plus important, ce plan-là ne permet pas d'inférer de quelconque façon la nature, l'étendue et la situation de la servitude. Alors, ce sont les deux seuls documents émanant du propriétaire là, de l'époque, M. Soutière, qui ont été analysés par le juge. Je comprends qu'ils ne pointent pas le doigt sur l'un d'entre eux en disant « ben c'est cet écrit-là », mais c'est ceux qui sont analysés. Maintenant, si on les prend et on les regarde, avec respect, je ne pense pas qu'on puisse conclure que c'est suffisant pour constater une servitude par destination du propriétaire de droit de plage. Bon, quant au reste, ce sont des contrats. Des contrats qui prévoient quoi? Ce sont des contrats qui créent ou qui constatent des servitudes contractuelles de passage. Étant dans un premier temps, je ne pense pas que si un contrat crée une servitude, on puisse alors qualifier la servitude de servitude par destination. Si c'est un contrat qui la crée, c'est une servitude contractuelle, et à ce moment-là, on va se conformer au contrat point. Et plus encore, si effectivement on conclut qu'il y a eu création d'une servitude par destination, mais qu'au moment où l'auteur commun morcelle ou vend les lots, il établit une servitude contractuelle différente, à ce moment-là, on doit se conformer à la servitude contractuelle parce qu'il y a une volonté de la part de l'auteur de venir ou l'étendre ou la restreindre. Dans notre cas, ça serait la restreindre. Ça, c'est un principe que vous retrouvez dans l'arrêt Plourde contre Plante, qui est à l'onglet 4 du cahier des sources, où la Cour indique, au paragraphe 44, que même si un arrangement, donc l'arrangement nécessaire à la servitude par destination, pouvait être identifié, le contrat subséquent est venu clore le débat et restreindre la portée de la servitude. On parle par ailleurs dans cet arrêt-là d'une situation similaire. Une servitude de passage inclut-elle à toute fin pratique un droit de plage? Évidemment, toujours en prenant la position que le contrat peut être l'écrit nécessaire à constater la servitude par destination, j'admets nécessairement que ces contrats-là permettent d'identifier un fonds dominant, un fonds servant, ça c'est évident. Par contre, ces contrats-là, ils définissent la nature, l'assiette et la situation de la servitude, et ils indiquent que c'est une servitude de passage. Donc, si on veut les retenir comme étant les documents nécessaires à constater la servitude par destination, et encore faut-il s'en tenir à ce qui est indiqué dans ces contrats-là, qui est, il s'agit d'une servitude de passage à pied pour vous rendre au lac, rien de plus.
Bien, écoutez, en 1947, le contrat qui intervient prévoit un droit de passage à pied pour atteindre la plage.
Là, vous parlez, je pense, du contrat à M. Gaudreau.
Le notaire Soutière et Luigi Gaudreau. Ensuite, en 1949, il y a un tiers individu qui est vendu, qui va lui revenir par la suite, mais l'acte prévoit un droit de passage à pied pour atteindre la plage, pour les parties intéressées, donc. Puis par la suite, lorsque le notaire vend à la compagnie dont il est président, les plages modernes, prévoit un droit de passage à pied à travers les terrains de la dite plage publique Wright pour se rendre de l'avenue principale au lac. Et vous vous dites qu'à cause de ça, ça modifie la... Qu'est-ce que vous dites? Ce contrat-là, non, il modifie.
Si on en vient à la conclusion que cet arrangement-là, donc que cette plage-là, était présente avant le morcellement des lots, bien, à partir du moment où il y a un contrat qui vient restreindre la portée et qui parle d'une servitude de passage, on devrait pas en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une servitude de plage. Dans le cas de l'acte de vente à M. Godreau, c'est une servitude qui est donnée à M. Godreau, qui par ailleurs n'est même pas un des lots qui est visé par le litige. Je vous souligne par ailleurs que vous avez, j'imagine, constaté qu'il y a eu une réouverture d'enquête dans ce dossier-là, après que le juge ait souligné ou vous intimé une lacune dans leur preuve. Et cette lacune-là, c'est précisément cet aspect-là qu'elle visait. Le juge est venu dire, à toute fin pratique, si vous n'êtes pas capable de me produire le fameux plan R6, là, tout ce qu'il me semble y avoir au dossier, c'est le règlement de construction R5. Alors, je vous souligne une lacune dans la preuve pour que vous puissiez la combler. C'était ça l'objet de sa lettre du 2 octobre 2012, qu'on retrouve en page 123. Et c'est lors de la réouverture en question qu'il a véhiculé ses propos. Vous retrouvez le passage là, dans le volume 3, page 1040, lignes 14 à 23. Vous allez voir que...
Vous référez à un plan de preuve, mais à quoi il fait particulièrement? Quel passage?
La page 1040.
1040?
Oui, ligne 14 à 23.
OK.
Et c'est durant la réouverture.
Oui, effectivement. Okay. Alors, évidemment, je suis tout à fait conscient que le juge, à ce moment-là, n'est pas lié par les conclusions qu'il peut faire, mais je le souligne parce que tout ça découle du fait qu'il souligne une lacune dans la preuve à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, dans le cadre de sa réflexion. Pour lui, il n'y a pas l'écrit nécessaire à la reconnaissance de la servitude par destination, sauf les règlements R5, lui semble absent du dossier. Alors, il n'est pas lié par ça, mais ça m'apparaît tout de même révélateur. Ce qui m'amènerait...
Il conclut que l'ensemble des documents qu'il a consultés, je pense qu'il qualifie d'innombrables.
D'innombrables, effectivement, oui.
L'amène à conclure de l'intention de...
Oui, c'est pour ça que je les reprenais. Et ce que je vous disais, c'est que R5, les règlements et les plans de subdivision R4, pour ma part, je...
Et c'est suite à c'est dans ce contexte-là que je crois que ça a été plaidé, justement, toute la question des... qu'est-ce que disent les différents écrits dans le dossier? N'est-ce pas? Parce que là, on est revenu sur... C'est des plaidoiries, hein, mais c'est des représentations qui ont été faites sur la portée des documents.
Bien, c'est-à-dire, cette audition-là portait plus précisément sur la possibilité pour les intimés de produire en preuve le plan R6, qui n'avait été remis au juge qu'à titre de document de travail, avec une entente entre les procureurs à l'effet que les mentions qu'on a trouvées ne devaient pas être utiles. Alors, c'est principalement là-dessus que la réouverture d'enquête portait. Et à la conclusion du juge, c'est que non, il ne pouvait pas recevoir le plein accès sans preuve. C'était ça sa conclusion.
Puis par la suite, les parties ont plaidé.
Mais en fait, on avait déjà plaidé à cette époque-là.
Il y a eu des représentations par la suite.
Oui, effectivement, sur cet élément-là.
Ça a été plaidé sur la portée des documents, puis ça a mené au jugement.